Je vais effectivement poursuivre sur cette question des données de public-privé avec un angle un peu différent, puisque moi, ma perspective est celle d'un politiste et plutôt à une échelle aussi différente qui est celle de la gouvernance urbaine. Et en fait, donc, ma présentation a pour objet en fait, de s'interroger un peu, de prendre pour les données comme objet politique et objet au cœur de recomposition des relations entre les acteurs publics et privés sur des territoires et dans la gestion de politiques publiques à l'échelle urbaine. Donc j'ai croisé en fait plusieurs recherches pour cette présentation qui se font écho. Une première mon travail de thèse qui portait sur la politique d'open data de la métropole de Lyon que j'ai suivi pendant 4 ans, et donc plutôt sur, comme ça a été évoqué, la libre circulation et l'injonction qui est faite aux acteurs publics de mettre en circulation leurs données et comment ça a été approprié par l'institution lyonnaise. Et je peux vous présenter aussi aujourd'hui mes recherches postdoctorales qui sont plutôt sur l'autre versant, le côté les données privées, les données collectées, produites et utilisées par des acteurs privés, notamment des plateformes, et qui, par cette accumulation de données, viennent questionner les institutions publiques de gouvernement. Et en fait, mon objectif, c'est justement de voir la circulation entre les deux, à la fois entre les données et aussi sur leur manière de produire la donnée. Donc, juste en quelques phrases de contextualisation, avec cette idée d'entrer par les données pour comprendre ces mutations de la gouvernance à l'ère du numérique, avec cette idée de dire que le numérique aujourd'hui, c'est de l'informatique pervasive qui est partout, on a de plus en plus de capteurs, et donc on produit de plus en plus de données, et notamment qu'on peut regrouper sous un terme générique qui serait celui du big data, qui a été très peu conceptualisé en tant que tel, que moi je définirais aujourd'hui avec une prolifération de données massives, exhaustives et variées, actualisées en temps réel. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la question du big et donc la question du degré de données, du volume considérable de données qui est, à mon sens, intéressant, mais plutôt deux autres caractéristiques de ce régime de quantification. Le premier, qui est un changement de nature avec des données qui sont plutôt sur des traces comportementales et donc qui sont moins statiques et beaucoup plus des données d'usage sur de la population, des individus, de ce qui se passe en ville en tant que tel. Et l'autre aspect qui a encore été évoqué sur la communication précédente, sur cette idée que ces données aujourd'hui doivent circuler, en tout cas très massivement, et que la valeur des données reposerait davantage dans leur circulation plutôt que dans leur accumulation. Et ce qu'on pourrait résumer sous l'appellation du libéralisme informationnel tel que l'a théorisé Benjamin Loveluck, c'est-à-dire l'application des principes du libéralisme au flux d'informations. Et donc, ce qui est intéressant avec le big data, c'est que ce régime de quantification s'accompagne aussi de l'émergence de nouveaux acteurs, que ces nouvelles données sont plutôt l'apanage d'acteurs du secteur privé qui se sont positionnés, qui sont apparus dans le secteur urbain au travers de cette capacité à accumuler des données qu'on regroupe sous un terme générique de celui de plateforme. Et donc, du coup, je reviens à ma grande question sur en quoi l'émergence de ce nouveau régime de quantification transforme la gouvernance urbaine et les relations entre acteurs publics et privés. Alors, mon approche, moi, méthodologique pour étudier cela, c'est celle d'une approche de sociologie des données qui, en fait, s'inspire pour beaucoup des travaux de sociologie de la quantification qui ont été développés en France par Alain Desrosières, essentiellement sur la statistique publique, et qui est assez intéressante puisqu'elle combine une analyse internaliste et externaliste des données, c'est-à-dire à la fois l'analyse cognitive et sociale, les représentations que véhiculent les données, et les usages des données et les configurations d'acteurs qui les portent. Et à cela, j'ajoute un deuxième principe méthodologique, qui est cette idée un peu de suivre la donnée, de se rentrer dedans de sa production jusqu'à son utilisation, en passant par les enjeux de sa mise en circulation et de voir comment elle circule à ces différentes étapes de la chaîne de la donnée entre les différents mondes sociaux et qui rend cette idée de frontière publique-privée totalement floue quand on rentre vraiment dans le cœur de la donnée. Et donc, du coup, cette sociologie de la quantification qui s'est plutôt portée historiquement sur les données publiques, les statistiques, assez peu sur des quantifications portées par des acteurs privés et assez peu également à l'échelle infranationale. Et aujourd'hui, ma présentation s'appuie sur un cadre conceptuel que j'emprunte à Luc Boltanski qui distingue le monde et la réalité, et le monde qu'il définit comme tout ce qui advient, et la réalité qui serait l'ensemble des mises en forme et des représentations du monde. Et donc, le passage entre les deux se produirait par divers instruments, dont la question de la production de données, de statistiques, entre autres, enfin, Boltanski en définit beaucoup d'autres, notamment le droit, la cartographie, etc., qui stabilise en fait une définition commune sur laquelle on peut se acter pour se coordonner entre acteurs. Et ce qui est assez intéressant dans cette conception monde-réalité, c'est l'importance que donne Boltanski sur le rôle des institutions, et en particulier des institutions publiques, pour établir et stabiliser cette réalité. Et on peut même aller plus loin et de dire que tout le processus d'institutionnalisation et notamment d'étatisation des sociétés s'accompagne en fait d'un mouvement de production d'un ensemble de savoirs qui serait communément admis, et en particulier des savoirs statistiques ou cartographiques au XIXe siècle qui ont permis aux États-nations telles qu'on les connaît aujourd'hui de se constituer et de s'actualiser de leur pouvoir. Et du coup, en partant de ce cadre théorique, moi, l'hypothèse, c'est de dire, OK, bah maintenant qu'on a un nouveau régime de quantification, porté notamment par des nouveaux acteurs, en quoi ça déstabilise cet agencement initial où on avait, pour résumer schématiquement, les institutions publiques étaient les seules grosses administrations capacitées de produire des données, et donc d'établir une réalité qui fasse référence. Et donc là, l'idée, ça serait de dire, de suivre deux hypothèses. La première, c'est que... On a ces nouveaux acteurs qui arrivent avec de nouvelles sources de données indépendamment, qui produisent des représentations alternatives du monde et surtout qui permettent à un ensemble d'acteurs, d'individus, de se coordonner autour de ces représentations. Et ça déstabilise très fortement l'agencement qui est préexisté, stable et ordonné de la réalité portée par des institutions publiques. Mais toutefois, l'idée c'est d'aller plus loin et de voir en fait en quoi circulent ces modes de production des données, que ça révèle des modes d'accommodement entre ces deux réalités et justement mettre en évidence des nouvelles modalités de coordination entre acteurs publics et privés, et donc de voir avec le big data que la donnée peut être tout à la fois un instrument de déstabilisation des politiques territoriales et des institutions publiques, mais aussi de régulation des acteurs privés. Et donc en gros, pour reprendre ce schéma, on aurait maintenant avec le big data deux oppositions, deux réalités coexistantes, la donnée publique et le big data porté par des acteurs privés, mais aussi des modalités d'accommodement dans les modes de production de données. Je vais prendre donc deux exemples pour illustrer cela. La première qui est l'étude de la plateforme Waze, donc, que certains d'entre vous doivent connaître et utiliser, j'imagine. La deuxième, ce sera plutôt sur l'open data public. Et donc sur Waze, pour présenter rapidement, qui est une start-up israélienne fondée en 2008, qui a été rachetée par Google en 2013 pour environ $1 milliard, et qui est une application de calcul d'itinéraire pour la circulation routière, dont la spécificité est de se baser uniquement sur des données qui sont collectées auprès de ses utilisateurs, qui est gratuite pour les utilisateurs et qui est basée sur un modèle économique de publicité, qui est utilisé très massivement en France. Donc là, je vous mettais les chiffres en 2017 avec 10 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, on est plutôt sous l'ordre de 12-13 millions d'utilisateurs. Il faut savoir qu'il y a 40 millions d'automobilistes en France, donc plus d'un automobiliste sur 4 est utilisateur de Waze. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est des utilisateurs très réguliers pour des trajets pendulaires domicile-travail qui utilisent l'application. Et en fait, son utilisation massive soulève des tensions avec les autorités publiques, comme je vais le montrer ensuite. Et donc, quand on se penche un peu sur les données qui sont produites et utilisées par Waze, ce qui est qu'on les compare avec les données traditionnellement utilisées pour la circulation routière, c'est des données qui produisent une représentation alternative de la circulation routière. Elles sont complètement détachées de l'infrastructure routière. Traditionnellement, en fait, pour réguler la circulation routière, on met des capteurs sous la chaussée qui nous permettent d'avoir un état, un endroit défini, de savoir si la route est congestionnée ou non. Waze, en fait, ces données proviennent directement des utilisateurs et des téléphones portables qui collectent en permanence les traces de circulation, et donc votre vitesse de déplacement, ce qui lui permet de savoir, en comparant avec un instant traditionnel, s'il y a un ralentissement important, et de vous proposer des itinéraires alternatifs, et notamment donc, sur des voies plus petites qui ne seraient pas congestionnées en temps réel. Et donc, les caractéristiques des données provenant de Way sont le crowdsourcing, donc qui fournit à la plateforme une autonomie et une maîtrise dans la production de ces données. Elle est totalement indépendante de tout producteur public ou privé de données pour fonctionner. Son exhaustivité, elle a des données sur l'ensemble des voiries, et donc peu importe la domanialité des voies, peu importe les frontières institutionnelles entre le département, la métropole, etc., on a des données sur toutes les infrastructures routières. Et elle a une connaissance précise de la vitesse de circulation, ce que n'ont pas les pouvoirs publics. Et donc, en gros, pour résumer rapidement, on a aujourd'hui deux formes de régulation de la circulation routière. Une qui est portée plutôt par les acteurs publics, les gestionnaires de réseaux routiers, qui vise à fluidifier le trafic et qui ont des données qui sont vraiment attachées à l'infrastructure, qui leur donnent des informations sur les flux de circulation avec des taux de congestion. Parallèlement, on a Waze qui vise plutôt à minimiser le temps de parcours, donc qui est plutôt dans une perspective temporelle. Son credo, c'est de faire gagner à tous les automobilistes 5 minutes sur leur temps de parcours, et qui vise à agir plutôt sur les individus par le biais du calcul d'itinéraire. Qui peuvent faire ça grâce à la vitesse de circulation en temps réel qu'ils ont sur toutes les voiries. Et donc on a deux régulations de la circulation routière qui parfois s'opposent, et notamment avec une utilisation massive de Waze dans certains quartiers, dans certaines zones métropolitaines, et des reports de trafic assez importants dans des zones résidentielles. Donc là, je prends les chiffres à Los Angeles où j'ai mené l'étude comparative, où il y a eu des mesures sur un quartier ici d'une zone résidentielle à Sherman Oaks, où ils ont été mesurés plus de 900 voitures par heure sur une route qui était construite pour 2000 voitures par jour, ce qui provoquait des protestations de la part des riverains, des problèmes de sécurité publique, des problèmes aussi de maintenance du réseau de voirie puisque le revêtement routier n'est pas le même et s'abîme plus rapidement, etc. Et donc, on en arrive à des tensions entre Waze et les acteurs publics, et des acteurs publics qui semblent un peu dépourvus pour réguler ce phénomène qui est assez massif quand même sur les territoires aux États-Unis, mais également en France. Avec des acteurs qui nous indiquent que Waze, ils ont une vision très individualiste du déplacement, qui se heurte avec les politiques publiques, puisqu'ils veulent faire passer les flux de véhicules par les voies principales, les autorités publiques, et qui sont en contradiction donc avec les pouvoirs publics qui souhaitent plutôt orienter les flux sur les voies les plus importantes. Et Waze répond à ça qu'en fait, eux, ils sont plutôt un symptôme et pas la cause du problème, qu'il faut regarder la situation dans son ensemble. Et si la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a des embouteillages sur les voies principales, c'est parce que la planification urbaine a été dépassée et que les infrastructures ne sont pas adaptées pour répondre aux besoins des personnes vivant dans les banlieues. En gros, depuis 40 ans, les autorités publiques subissent les phénomènes d'étalement urbain et n'ont pas mis les infrastructures de transport adaptées pour y répondre. Et donc, moi, ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de bien pointer qu'on avait une politique publique de régulation de la circulation routière qui se basait sur des données publiques qui, aujourd'hui, entrent en déliquescence, pour reprendre le terme d'Emmanuel Didier, où, en fait, la donnée ne permet plus aux acteurs de se coordonner. En tout cas, les acteurs ne se coordonnent plus avec la donnée publique. Avec cette réalité publique de la congestion routière qui est mise à l'épreuve avec un autre cadrage du problème, on n'est plus sur une régulation des flux, mais plutôt sur une régulation des individus. Un autre périmètre, puisque Waze s'affranchit de tout territoire institutionnel, et donc il a par ces données, il unifie la réalité au-delà des frontières locales, et ça c'est intéressant puisque c'était très longtemps le projet qui était dévolu à l'État, notamment comme le met en avant James Scott. Et donc, ça déstabilise les autorités publiques qui sont mises à l'épreuve dans leur capacité donc à coordonner les actions individuelles au travers d'une représentation reconnue et acceptée de la réalité. Et donc, en perdant cette capacité à prouver, à se coordonner, les institutions publiques voient se fragiliser leur pouvoir à gouverner, ici, les automobilistes. Je voulais aller un peu plus loin que juste montrer cette opposition entre données publiques et données privées, entre institutions publiques et plateformes, et regarder s'il n'y avait pas justement des formes d'accommodement entre les deux dans les modes de production de données. Donc là, je vais en présenter quelques-uns pour vraiment s'interroger de savoir si Waze, ces données sont vraiment des données privées en tant que telles ou non. Et pour ça, je m'arrêtais d'abord sur la base de données de Waze, notamment la base de données cartographique, donc l'ensemble de son fond de plan que vous pouvez avoir au fond en arrière-plan de l'application. Et en fait, cette base de données est produite par des éditeurs bénévoles qui sont une communauté structurée d'individus utilisateurs de l'application qui consacrent un peu de temps par semaine pour enrichir et mettre à jour la base de données. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ces contributeurs, qui sont donc des citoyens français, pour produire les données, ils sont obligés de se conformer à une catégorisation de la base de données, qui est une catégorisation générique à l'international produite par Waze, qui s'appuie plutôt sur les catégories nord-américaines et qui entre un peu en contradiction avec les catégories françaises telles qu'on les entend de la hiérarchisation des voix. Et il y a eu notamment une controverse au sein de cette communauté des éditeurs quand Waze a indiqué du jour au lendemain qu'il y avait une option éviter les autoroutes. Et là se posait la question, mais en fait, c'est quoi une autoroute ? Et ça n'a rien d'évident parce qu'il y a des catégories différentes entre une freeway à l'américaine et ce que pourrait être une autoroute telle qu'on l'entend en France. Et donc, est-ce que c'est les voies express, les périphériques, les rocades rentrent dans le réseau autoroutier ou non, etc., etc. Et donc, il y a eu des débats assez importants au sein de la communauté. Ils étaient même un certain désarroi de la part des éditeurs qui ne savaient pas que faire de cette option. Et donc, ils ont fait des formes de reverse engineering pour comprendre comment fonctionnait l'algorithme et comment ils devaient catégoriser les voies. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils en sont arrivés à la conclusion de dire on va reprendre les catégories étatiques, et notamment un décret qui est le décret qui établit les routes à grande circulation, qui liste très précisément ce que sont ces routes à grande circulation, qui ce serait l'équivalent des freeways. Et en fait, c'est assez intéressant parce que là, on voit dans le mode de production de la donnée une espèce d'alignement entre la base de données de Waze et une réalité traditionnelle instituée par les autorités publiques, qui est vraiment de manière un peu insidieuse, démontre la capacité quand même de l'État à pénétrer la société civile et à imprégner les modes de représentation des acteurs qu'on retrouve dans cette production de données. Deuxième point sur la production des données, et ça me permettra de faire la transition rapidement avec l'open data pour conclure, c'est que Waze a mis en place un programme d'échange de données qui vise à récupérer, à fournir aux collectivités tout un ensemble de données que Waze peut avoir sur leur territoire en échange de données sur les fermetures planifiées de circulation et donc qui sont en fait les seules informations que Waze ne peut pas en avoir en amont puisque ce sont celles qui sont prises par décret par les arrêtés municipaux de fermeture de voirie. Et donc, ils ont mis en place ces partenariats. Il y a aujourd'hui une petite trentaine de collectivités françaises qui sont membres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce partenariat peut être considéré comme bénéfique pour les deux parties. Pour Waze, il lui permet d'avoir une information qu'il ne peut pas avoir autrement et donc de consolider ses données et de renforcer l'usage, la qualité de l'application. Et pour les collectivités que j'ai interrogées qui ont mis en place ce partenariat, pour elles, c'est très intéressant puisque ça leur permet en fait de toucher leurs citoyens et de véritablement toucher leurs usagers, notamment quand elles ont des événements perturbants sur leur territoire, des grands travaux, etc. Et ça leur permet aussi, selon elles, de conserver la maîtrise de l'information qu'elles fournissent aux usagers, même si cela passe par un autre canal. Et du coup, on pourrait penser à une espèce de redéploiement de l'action des collectivités par les données, notamment ce que m'indiquait ce responsable des données de voirie du département du Var, qui me disait qu'en tant que collectivité, là où on a la plus-value à apporter, là où la sphère publique a un rôle à jouer, c'est sur les données. Et on assisterait du coup à une espèce de nouvelle répartition des tâches entre acteurs publics et privés, les acteurs publics qui seraient plutôt centrés sur la production et la mise à disposition de données de qualité et qui laisseraient aux acteurs privés le développement de nouveaux services aux usagers. Et donc une forme de gouvernement indirect par l'intermédiaire de la mise en circulation des données publiques qui en fait renforcerait le pouvoir sémantique des institutions publiques puisque ce serait les données et la représentation publique qui seraient au cœur des applications développées par les acteurs privés. Et du coup, je conclus sur l'open data, puisque c'est exactement en fait dans cette transition. Donc il y a eu tout ce mouvement autour de l'open data, cette injonction pour les acteurs publics, que certains voient plutôt comme une marchandisation des données publiques, une forme de privatisation des services publics. L'Union européenne qui est clairement dans un objectif de développement économique que ça s'inscrit dans cette idée que l'information serait le nouveau pétrole et qu'il y aurait un gros marché derrière ça. Donc il y a plein de rapports qui sont sortis. Ça, c'est un rapport qui était souvent cité de 27 milliards qui serait permis par l'open data. Et donc l'open data qui serait une nouvelle modalité de recours au marché par la diffusion des données publiques. Ce qui est loin de... Je ne sais pas combien de temps il me reste si je... Zéro. Bon, bah, du coup, ce qui est loin d'être si évident, puisque c'est quand même assez difficile de réutiliser des données qui ont été produites pour une certaine utilisation. Et donc, en fait, l'offre de données publiques mises à disposition ne rencontre pas forcément sa demande sur le marché des données ouvertes, mais sauf pour certains types de données très particulières, notamment les données de transport, où les acteurs publics, et notamment c'était le cas du Grand Lyon, a véritablement réussi à faire reposer sur des acteurs privés la mise en œuvre de sa politique publique tout en les régulant par les choix qu'elle a mis en œuvre dans la diffusion des données publiques.
On se disait, on prend quelques questions, puis si ça vous va, au bout d'un moment, je vous couperai pour laisser la parole à Christine.
Oui, ce serait pour rebondir juste sur ce que vous venez de sur les derniers temps de votre présentation. Quel lien vous feriez entre tout votre propos et les smart cities? Est-ce que ce n'est pas une possibilité de justement revenir sur la fin de votre intervention, qui est de dire que finalement, les données publiques et privées, ou même l'intervention privée sur l'utilisation privée des données et l'intérêt public, peut se retrouver sur une conciliation en disant... Nous, public, on met à disposition nos données et vous, en échange, comme vous dites, je crois, à la diapositive d'avant, où vous dites la personne publique, elle donne la donnée et la personne privée, elle gère le service grâce aux données qu'on lui a données. Et est-ce que finalement, le concept de Smart Cities, c'est pas ça, c'est-à-dire de permettre également au public d'influencer l'utilisation des données par le privé et du coup de lui permettre de faire quelque chose, par exemple le transport en commun. On a tendance à pas délaisser le bus, mais de dire on va mettre de l'autopartage, on va mettre des Vélib, des autos en libre accès. Et finalement, ça, c'est fait par des opérateurs privés qui vont utiliser les données et ont finalement les infrastructures essentielles du public, mais qui les met à disposition au privé pour qu'il fasse à sa place ce qu'il faisait avant et peut-être le faire mieux grâce à des données plus précises. Mmh.
Alors moi, je n'appellerais pas ça Smart City, qui est pour moi vraiment quelque chose qui est plutôt un modèle d'optimisation urbaine par le biais des données qui est assez top-down, etc. Par contre, c'est effectivement, ça dépend des secteurs d'action publique, ça dépend des données et ça dépend aussi des territoires. Mais en tout cas, certains réussissent à coordonner un ensemble d'acteurs privés par le biais de la mise à disposition des données. Et moi, c'était le cas. Donc, je ne sais plus si... j'ai juste là, par exemple, pour prendre ici, c'est le cas de Lyon, où Lyon, en fait, son objectif, c'était vraiment de développer, dans le cas de la mobilité, des applications multimodales en mettant les données à disposition du marché. Et en se disant que ce n'étaient pas les plus légitimes pour le mettre en œuvre. Et en fait, de fait, là où il y avait une application de l'autorité publique, donc les TCL qui prenait en compte que les transports en commun, les données ont été mises à disposition en 2015 et là on voit apparaître tous les acteurs de marché qui ont intégré ces données. Par contre, se pose la question de la capacité ou non de l'acteur public à réguler l'usage de ces données. Et là où l'open data initial, et notamment c'est les militants de l'open data, prônent un libre accès aux données avec des licences très libérales, ce qui est aussi très poussé par l'État français et l'Union européenne. Moi, sur mon terrain lyonnais, il y avait les acteurs locaux qui souhaitaient mettre en place des licences plus restrictives, qui, dans les formats d'accès aux données, souhaitent aussi contrôler, par les modalités d'accès technique aux données, peuvent contrôler les réutilisations, etc. Et donc, clairement, il y a eu toute une réflexion de régulation des acteurs de marché par les modalités de mise à disposition des données.
Merci beaucoup. Ma question, c'était peut-être sur les rapports entre les collectivités territoriales, l'État et la Commission européenne dans ces questions de mise en œuvre de politique open data, à Lyon notamment, pour le terrain que tu as beaucoup investigué. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté d'autonomisation de la métropole dans cette politique open data, ou est-ce qu'il y a une influence qui se fait par rapport à la mission Etalab ou de la Commission européenne? Quel est le regard que tu portes sur... cette question de l'autonomisation possible des collectivités sur ce thème?
Alors, je vais répondre en deux temps différents. La première, c'est déjà qu'au sein d'une même métropole, en fait, il y a plusieurs politiques d'open data. et que selon les services producteurs de données et selon les secteurs d'action publique, on peut avoir des gestions différentes de la donnée et une volonté plus ou moins forte d'ouverture et surtout selon des modalités différentes parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts et que ce ne sont pas les mêmes données. Et donc du coup, c'est assez difficile de catégoriser de manière générique l'open data et je pense que ça, c'est assez important. Et ça va très déterminer surtout les relations entre les acteurs publics et privés selon les secteurs. Enfin, le secteur de l'eau ou de l'énergie n'ont rien à voir avec le secteur de la mobilité sur ces questions d'open data à Lyon. Et l'autre aspect sur le cas des relations multiniveaux, c'est que Lyon avait développé des licences un peu particulières qui étaient beaucoup plus contraignantes pour les utilisateurs, pour certains types de données. Et en fait, l'État français, au moment de l'adoption pour la loi pour une République numérique, a souhaité justement créer un marché un peu unifié à l'échelle nationale des données. Et donc pour ça, il faut une espèce de standardisation pour les réutilisateurs avec des licences relativement génériques pour éviter la cacophonie juridique et l'instabilité juridique potentiellement pour les réutilisateurs. Et donc du coup, ils ont refusé en fait toute licence spécifique pour les collectivités. À ce moment-là, il y avait eu une espèce de... une tentative de lobbying de la part de la métropole de Lyon via différents biais et qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, donc, ils sont en train de se demander comment ils vont faire pour jouer avec la régulation nationale en préservant leurs intérêts et leur modèle d'open data.
J'avais deux observations plutôt que des questions. Par rapport à la première, par rapport à Waze, je ne sais pas si ça va au-delà de votre sujet de recherche, mais je regardais sur la liste des paramètres possibles et ça a attiré mon attention, la version qu'on utilise au Chili et là comme option par rapport à cette question de la mise à l'épreuve des pouvoirs publics, il y a une option de repérage des postes de police ou des agents de police en fait, qui sont sur la route. Et je trouvais ça assez... Enfin, je ne sais pas si depuis ça existe. Je ne sais pas si ça existe dans la version française. Je ne me suis jamais servi de la version française, de la chilienne non plus. Mais je sais que ça existe et je trouvais ça assez inquiétant. Même. Enfin, je ne sais pas quel type de personne utilise ça et dans quel but, à part enfin, comment on peut être tout le temps en train de fuir la police. Ça, je ne comprends pas trop, mais ça, c'est une question. Et l'autre question, c'était par rapport à... J'entends depuis tout à l'heure... Il y a comme un lien, je ne sais pas si c'est peut-être une version simpliste que je m'en fais du sujet, mais j'ai l'impression qu'il y a un sort de lien entre l'open data et l'utilisation un peu marchande qu'on peut faire des données de n'importe quelle nature, donc cette idée de l'accès et la réutilisation, toujours dans l'objectif ou dans le souci d'éviter une utilisation lucrative de ces données. Et ça me mène aussi à un exemple qui vient du Chili, où il y a 10 ans à peu près, il a été créé le Conseil pour la transparence de l'administration publique, qui a comme but de mettre à disposition toute une politique d'open data, mais qui est pas du tout de l'administration publique et qui est utilisée par la société civile comme un outil de contrôle et des luttes contre la corruption. Et donc, je trouve ça très intéressant le fait que. Il est tout, enfin, j'ai l'impression qu'ici en France, on voit ça comme une sorte de menace. Et ailleurs, on peut voir l'open data comme une opportunité de contrôler l'État et les décisions de l'État, et le fonctionnement de l'administration en général.
Oui, alors sur le premier point, sur le cas de Waze, effectivement, Waze a été popularisé sur cette idée de pouvoir signaler, enfin, en France, les radars routiers, les radars fixes. Maintenant, c'est interdit par la loi et donc Waze ne donne plus que, comme tous les autres fournisseurs de GPS, des zones de contrôle. Par contre, effectivement, il y a encore des signalements où les gens peuvent signaler là où sont les autorités policières et ça existe encore sur l'application et ça, pour l'instant, c'est dans un flou juridique et donc ils se basent là-dessus. Ça a fait plusieurs controverses en France et aux États-Unis également à Los Angeles où les forces de police, en fait, s'en plaignent énormément. En disant que ça limite leur action et des controverses notamment sur les tracks des terroristes en 2015 où ils auraient pu repérer les contrôles sur Waze, etc. Et donc Waze maintenant le prend en compte justement dans ce cas d'événement exceptionnel où il supprime cela, mais sinon ça existe encore sur l'application. Sur le deuxième point, en fait, c'est un peu l'ambivalence du mouvement de l'open data. Il y a tout un mouvement de l'open data qui s'appelait pas open data, qui était plutôt mouvement pour la libre circulation des données porté par le secteur des industriels de l'information, qui voyaient là en fait comme une vraie ressource potentielle pour eux, pour le développement économique. Et de l'autre côté, est apparu en fait vers la fin des années 2000 ce mouvement plutôt porté par des acteurs militants du numérique et du mouvement hacker, culture libre, pour le faire de façon schématique, qui visait effectivement cette idée qui est aussi assez naïve, hein, que par la transparence généralisée des administrations publiques, on aurait un meilleur fonctionnement des administrations. Et en fait, ces deux se sont rejoints un peu. Enfin, il faudrait faire la généalogie exacte de ce mouvement, mais ils se sont rejoints pour dire imposer même cette idée d'ouverture des données. Et donc, selon les territoires, selon les configurations, certaines politiques visent plus la transparence, la participation par l'ouverture des données, d'autres plutôt le développement économique. Moi, sur mon terrain lyonnais que je vous ai présenté, cette idée de transparence, participation était rapidement évacuée par l'administration et par les élus. Au profit uniquement du développement économique. Donc c'est pour ça que je mettais l'accent dessus. Par contre, ce n'était pas du tout vu comme une menace. Au contraire, c'est plutôt une opportunité.